Vous écoutez, on lit pour vous.
Conception de la première jambe robotique avec des muscles artificiels. Un texte de l'agence France Presse paru le 9 septembre 2024 dans La Presse. Une équipe menée par des chercheurs suisses a annoncé lundi le 9 septembre 2024 avoir conçu la première jambe robotique avec des muscles artificiels, des sortes de poches remplies d'huile, lui permettant d'effectuer des sauts sur différentes surfaces. Dans une vidéo accompagnant l'étude, publiée dans la revue Nature Communication, la petite jambe robotique apparaît en train de faire des petits sauts dans un cercle couvert d'herbe, de sable et de cailloux. Les chercheurs espèrent que leur technique soit utilisée pour des robots humanoïdes capables de tâches domestiques ennuyeuses, a dit à l'AFP Robert Katschmann, co-auteur de l'étude. L'équipe de chercheurs a été inspirée par le fait que le corps humain utilise environ 600 muscles afin de créer un robot capable de marcher et sauter de façon fluide. Elle a utilisé pour cela ce qu'elle appelle des muscles artificiels, aussi connus sous le nom d'actionneurs électro-hydrauliques. Ces muscles ressemblent à de petits sacs à congélation attachés aux os métalliques de la jambe robotique. Remplis d'huile et munis d'électrodes, ils se contractent et se détendent en mimant le mouvement d'un muscle animal. Les robots humanoïdes ordinaires sont fabriqués avec des moteurs et des joints métalliques rigides, similaires à ceux utilisés sur les chaînes de montage industrielles, a expliqué M. Katschmann, professeur de robotique à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Ces robots industriels sont beaucoup trop lourds, donc dangereux, et trop chers pour une utilisation à la maison, selon lui. Un robot domestique devrait être capable non seulement de porter des charges, mais aussi de donner une accolade ou serrer la main. La technique du muscle artificiel a pour avantage d'utiliser moins d'énergie qu'un moteur traditionnel quand le genou du robot est plié, selon l'étude. Et elle permet aussi à la jambe d'aborder des terrains difficiles avec plus d'agilité, d'après les chercheurs. La recherche dans le domaine des actionneurs électro-hydrauliques est relativement récente. La jambe testée exécute des sauts de 13 cm, soit 40 % de sa hauteur. Mais elle ne peut effectuer cette prouesse que sur un cercle à ce stade, étant reliée à un axe autour duquel elle tourne. Un robot humanoïde fonctionnant complètement avec des muscles artificiels n'est pas encore prêt de voir le jour. Même si le professeur Katschmann estime que la production de masse de muscles artificiels, facilitée par le faible coût de ses composants, pourrait accélérer le mouvement. C'était conception de la première jambe robotique avec des muscles artificiels. Un texte de l'agence France Presse paru le 9 septembre 2024 dans La Presse.
La portée du geste militant. Une chronique de Julie Vaillancourt parue le 22 avril 2024 dans le magazine Fugue. Plus je vieillis, plus je commence à craindre de vieillir. Normal, vous me direz? C'est drôle, lorsqu'on est jeune, on se sent invincible. Probablement parce qu'on a foi en nos capacités. Le corps suit les pensées et vice-versa. Mais qu'advient-il de nous dans nos vieux jours? Je sais, ce n'est pas très hop la vie comme sujet de chronique. Cela dit, où il y a de la vie, il y a de l'espoir, ainsi que de beaux moments. C'est important de prendre le poids des situations plus difficiles, car ce sont elles qui, trop souvent, malheureusement, nous font prendre conscience des moments de bonheur. Mon père, qui est septuagénaire, est à l'hôpital au moment d'écrire ces lignes. Ne vous en faites pas, il est rétabli, au moment de réviser ces lignes. Certes, mon père m'a fait peur il y a quelques années de cela. J'étais dans une réunion du FUG pendant que mon ex-copine emmenait mon père à l'hôpital, victime d'une crise cardiaque. C'était l'époque où je n'avais pas de cellulaire. Oui, je sais. À mon retour, j'ai reçu la nouvelle. La tempête était passée. Pour l'instant. Le problème avec le fait de vieillir, c'est que ça va rarement en s'améliorant. C'est comme l'épée de Damoclès. La menace n'est jamais bien loin, car le danger peut frapper à tout moment. Et même la mort. Bien sûr, cette fatalité peut arriver tant aux jeunes qu'aux moins jeunes, mais les jeunes y pensent moins. En rédigeant cette chronique, j'ai appris le décès de Chloé Viau. Elle nous a quittés des suites des complications d'un AVC. Sur les réseaux sociaux, les gens soulignaient le caractère soudain de l'événement. La mort frappe, souvent sans prévenir, d'où l'importance de passer de bons moments avec les gens qu'on aime lorsqu'ils sont des nôtres. Je me souviens plus particulièrement de ce moment avec Chloé où j'étais allée la voir à l'hôpital après sa chirurgie de réassignation sexuelle. Elle m'avait confié être enfin elle-même après sa vaginoplastie. À 68 ans, bien qu'elle ait fait son coming out sur le tard, c'est-à-dire à 60 ans, Chloé s'est impliquée abondamment dans la communauté LGBTQ+ québécoise durant les dernières années, et ce, au sein de plusieurs organismes. Si je l'ai connue par ses implications au Réseau des lesbiennes du Québec, j'ai appris à apprécier cette femme qui militait autant pour les femmes, les trans que les aînés. Dans une société qui prône le culte de la jeunesse chez la femme, ce n'est pas une mince affaire. Je me souviendrai toujours de cette entrevue effectuée pour Fugue en 2018. L'entretien a débuté de façon plutôt insolite, alors que Chloé s'était fait mégenrer par le serveur du restaurant où nous avions rendez-vous. Cela dit, elle n'a pas perdu son sens de l'humour pour autant. Mais le serveur se confondait en excuses, c'était plutôt rigolo. L'entrevue s'intitulait, à juste titre, « Faire corps, de la transition à l'implication ». Ce qui est beau avec le geste militant, c'est qu'il vit au-delà de la personne. À une époque obnubilée par la promotion et l'autopromotion, et le milieu du communautaire n'y échappe guère, c'est rafraîchissant. Rafraîchissant de constater que l'on est sur cette terre, certes, mais que le monde ne s'arrête pas de tourner après notre mort. Si, de notre vivant, nous avons fait les bons choix en étant authentiques, éthiques, vrais, honnêtes et fidèles à nos convictions, envers les personnes qu'on aime et les causes qui nous tiennent à cœur, nous pouvons transcender la mort pour entrer dans la sphère du souvenir, de la mémoire. Ainsi, les gens se souviennent de ce que la personne décédée a fait de son vivant, de ses actions et de comment elle a agi en interrelation avec les autres. Plus vous êtes honnête lorsque vous entrez en interrelation avec les autres, plus ils se souviendront de vous pour les bonnes raisons. Bien sûr, on se souvient également des gens ayant commis des méfaits, mais ils ne l'emportent pas au paradis. Bref, on ne se souvient pas d'eux pour les bonnes raisons, ou du moins, le souvenir est souvent amer. Mark David Chapman pensait devenir aussi célèbre que celui qu'il a assassiné, John Lennon. Il n'a fait qu'élever davantage l'ex-Beatle au rang de légende. Certes, pas besoin d'être aussi extraordinaire que les Beatles pour marquer les gens et sa communauté. Agir pour le bien des autres, à petite échelle, est une forme d'altruisme qui marque les consciences. Et dans le communautaire comme ailleurs, même si les initiatives de la sorte sont de plus en plus rares, elles existent. Ce ne sont pas les plus publicisées, les plus sexy, mais elles changent des vies. Nos vies. Une brique jaune à la fois. Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel. Par exemple, en écrivant ces lignes, je suis tombée sur l'initiative d'un collectif de 10 lesbiennes écoféministes âgées de 60 à 78 ans. Elles ont créé la Maison des Rebelles, un OBNL d'habitation basé à Montréal pour les lesbiennes âgées et leurs alliés. Après plus de 8 ans de travail, la résidence lesbienne accueillera ses premières résidentes d'ici la fin 2024 dans le quartier Saint-Henri. L'habitat Folhomme, une résidence située à deux pas du village, assure déjà ce rôle pour les hommes gays. Ainsi, voit enfin le jour une communauté axée sur l'entraide, l'autogestion et la solidarité qui s'adresse aux femmes de 55 ans et plus, s'identifiant comme lesbiennes, gays, queer et leurs alliés. On dit même qu'il reste de la place, au moment d'écrire ces lignes. Sans conteste, la demande y est, si on compte les initiatives de la sorte par le passé, mais également ce besoin pour les lesbiennes aînées de se retrouver au sein d'une communauté solidaire et sécuritaire. À l'aube du 17 mai, journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, et la lesbophobie qui mérite d'être nommée et non sous-entendue ou entre parenthèses, on ne dira jamais assez que les LGBTQ+ phobies demeurent, au même titre que la lesbophobie, le L étant en tête de liste. Sans compter les doubles discriminations, et j'aimerais ici souligner l'âgisme, puisque ma chronique se voulait un court hommage aux initiatives et militantes aînées, comme à ces sages dont on oublie trop souvent rapidement l'existence, au profit de likes éphémères sur TikTok ou Facebook. Néanmoins, il existe des personnes qui font des actions exceptionnelles de leur vivant et qui méritent toute notre reconnaissance. Ce qui est beau avec le geste militant, altruiste et vrai, c'est qu'il vit au-delà de la personne. Il imprègne nos cœurs et nos esprits pour toute une vie. C'était « La portée du geste militant », une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 22 avril 2024 dans le magazine Fugue.
Comment vendre du phoque en 2024? Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 21 septembre 2024 dans la presse. L'industrie québécoise mise sur un nouvel argument pour refaire son image. Sa durabilité. La quantité de phoque dans le golfe du Saint-Laurent ne cesse de croître. Malgré ce fait, il ne se passe pas grand-chose dans cette industrie qui ne demande qu'à se développer. Exportation. Pour l'entrepreneur Samuel Bilodeau, il ne faut pas chercher midi à 14 heures pour expliquer la stagnation de l'industrie du phoque. Tant que l'exportation dans des marchés clés comme les États-Unis ou l'Union européenne ne sera pas possible, on ne développera pas ici ce secteur manufacturier. Bilodeau est une PME de Normandin, au lac Saint-Jean, qui confectionne des manteaux et des accessoires, notamment des bottes et des mitaines en peau de phoque, qu'elle vend essentiellement au Canada, faute de pouvoir les commercialiser ailleurs. Même si les méthodes de chasse comme de transformation ont grandement évolué, cette industrie est prise avec une image tenace, celle des bébés phoques décapités sur les banquises blanches et des fronts d'activistes européens débarqués au Québec dans les années 1970 jusqu'au début des années 2000. Les voix de Brigitte Bardot et de Paul McCartney ont résonné assez fort pour fermer des marchés clés, toujours verrouillés à double tour. Il faut trouver une façon de se battre contre des fantômes du passé, dit Doug Chiasson, directeur général de l'Institut de la fourrure du Canada, qui explique qu'une partie de la population est restée marquée par les images et le discours des années 1970, alors qu'on ne pratique plus la chasse aux blanchons depuis près de 40 ans au Canada. Il faut que le gouvernement canadien fasse un gros travail d'éducation, déclare M. Bilodeau. Mais il doit aussi faire un travail d'affaires étrangères pour travailler avec les pays importateurs potentiels de ces produits-là. Bilodeau utilise des peaux de Terre-Neuve et Labrador, là où se trouve le plus grand nombre de chasseurs de phoques au pays. Pour avoir une industrie du phoque en santé, il faut travailler avec toutes les ressources et les exporter partout, précise Samuel Bilodeau. Contrairement à ce qui se faisait dans les années 1970, trois parties du mammifère marin sont largement utilisées commercialement. Sa graisse, sa chair et sa peau. La business du phoque est bonne seulement si l'ensemble des ressources est transformé, insiste Samuel Bilodeau. Mes fournisseurs ne pourront pas vivre s'ils vendent juste la peau. Personne ne peut faire ça. Ça ne serait pas profitable. Aujourd'hui, les producteurs récoltent la peau, transforment l'huile en oméga-3, vendent la viande. J'ai des gens qui viennent me voir avec des bottes qu'ils ont depuis 20 ans, dit-il. Essayez de me trouver une paire de bottes que vous allez mettre pendant 20 ans, faites en tissu ou en plastique. Mais les choses commencent à changer dans cette industrie. Une nouvelle génération de consommateurs est plus au courant des enjeux actuels que des images du passé. On voit un changement générationnel qui s'opère maintenant essentiellement entre la génération X et les milléniaux, explique Doug Chiasson. La multiplication des phoques n'y est pas étrangère. Selon M. Chiasson, la fourrure n'est plus vue de la même façon, les produits du phoque non plus. Il y a un écosystème complètement différent aujourd'hui, dit-il. Il y a une quarantaine d'années, on avait autour de 3000 phoques gris dans le golfe. On en a maintenant 400 000 ou 500 000. La façon d'évaluer les produits du phoque change aussi, explique Doug Chiasson. Alors qu'avant, on regardait la méthode de chasse, on mesure désormais l'impact des prélèvements dans l'écosystème. Ce rat des mers. À Ottawa, un rapport du Comité sénatorial des pêches et océans, publié le printemps dernier, blâme sévèrement l'inaction du gouvernement fédéral dans la gestion de ce dossier. Le comité recommande de lutter contre la mésinformation et la désinformation au sujet des populations de phoques, de la chasse aux phoques et de l'industrie des produits dérivés du phoque au Canada, notamment en faisant la promotion de sources d'informations fiables et d'élargir l'accès au marché pour les produits dérivés du phoque, y indique-t-on. Peu de temps après, au cœur de l'été 2024, la ministre fédérale responsable des pêches, Diane Leboutillier, a annoncé vouloir faire bouger les choses auprès de l'Union européenne, où l'importation des produits du phoque est pratiquement interdite depuis 2009. Dans sa sortie publique, la ministre qualifie le phoque de « rat des mers », une déclaration qui n'est pas passée inaperçue dans une industrie qui essaie de valoriser le phoque. Mais l'Union européenne n'a pas attendu la ministre canadienne. Elle mène présentement une réévaluation de cette interdiction dans le contexte actuel. Vous écoutez « Comment vendre du phoque en 2024 », un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 21 septembre 2024 dans La Presse. Gilles Thériault, directeur de l'Association des chasseurs de phoques du Québec, rappelle que les gens posent la question « Est-ce qu'il y a trop de phoques ?» C'est une fausse question. La question est « Est-ce qu'il y a assez de phoques pour exploiter cette ressource-là ? » Il y a le réchauffement des eaux, l'acidité des eaux, les changements de courant, les changements des patterns de prédation des proies, énumère-t-il. Il y a plein de facteurs, mais clairement, le phoque en est un. Et c'est à peu près le seul sur lequel les pêcheurs et chasseurs peuvent avoir de l'influence pour rétablir l'écosystème. Gilles Thériault maintient aussi qu'une augmentation de la chasse serait bienvenue dans les régions de pêche qui vivent avec les fluctuations, voire l'effondrement des stocks de poissons ou de fruits de mer, comme aux îles de la Madeleine, où se trouve la majorité des chasseurs de phoques québécois. C'est aussi aux îles que la boucherie Côte à Côte a développé le marché de la viande de phoque, que l'on appelle loup marin, afin d'en faire un produit gastronomique plutôt que folklorique et destiné aux touristes. On est 15-20 ans en avance sur tout ce qui se passe au monde dans la viande de mammifères marins, dit Gilles Thériault. Un produit durable. Loin des îles, à Machtouillache, au lac Saint-Jean, un centre collégial de transfert technologique travaille à valoriser la fourrure des animaux terrestres et s'intéresse aussi aux phoques. Le phoque est un prédateur, un carnivore qu'on a laissé aller et qui s'est développé de façon exponentielle, dit d'entrée de jeu Louis Gagné, directeur d'Écofaune Boréal, le centre en question. Son raisonnement est simple. La situation actuelle impose une meilleure gestion de la ressource, donc inévitablement une éventuelle augmentation de la chasse aux phoques. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec, dit-il? On va valoriser la ressource. On ne peut tout de même pas l'acheter. Écofaune Boréal développe des techniques de tannage plus écologiques en éliminant le chrome au profit d'agents de tannage végétaux avec des processus qui nécessitent moins d'eau, d'énergie et de produits chimiques. Le groupe vient aussi de récupérer du matériel pour transformer le gras du mammifère en huile. La graisse du phoque représente environ 40 % de son poids. Une huile, faite à partir du gras du phoque purifié, n'a pas d'odeur. On peut même faire une vinaigrette, précise Louis Gagné. Reste à vendre la salade, car si les choses changent, les produits du phoque sont encore difficiles à avaler pour une partie des consommateurs. L'ensemble de l'industrie le mesure très bien et mise gros sur ce nouvel argument écologique. On devient un produit de l'économie circulaire, appuie Louis Gagné, qui est de ceux qui misent sur le développement du marché local d'abord et avant tout. La situation de l'écosystème marin requiert l'implication des gens, dit-il, c'est simple. Les Québécois doivent demander des produits du phoque. Quels pays interdisent les produits du phoque? Depuis 2009, la commercialisation des produits du phoque est interdite en Europe, à l'exception de produits des Inuits et des peuples autochtones, selon de stricts critères d'importation. La loi sur la protection des mammifères marins interdit le commerce de produits du phoque aux États-Unis. Le Royaume-Uni, la Russie, le Mexique, l'Inde, la Suisse, le Kazakhstan, la Biélorussie, la Croatie, Taïwan et le Groenland l'interdisent aussi. Poisson ou viande? Le phoque est un mammifère, mais est considéré comme du poisson à Terre-Neuve et dans la plupart des provinces, mais comme de la viande au Québec, selon la définition du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, MAPAC. On devrait créer une catégorie « mammifères marins » pour l'ensemble du pays, suggère Gilles Thériault de l'Association des chasseurs de phoques du Québec. Où chasse-t-on le phoque? La chasse commerciale est permise au Canada, en Norvège, au Groenland et en Namibie, mais on chasse aussi le phoque dans de nombreuses nations côtières comme en Écosse, en Estonie, en Suède, au Danemark et en Finlande, afin de contrôler les populations marines. Population de phoques dans l'Est du Canada. Phoque gris, 366 000 en 2019. Phoque du Groenland, 4,7 millions en 2019. Il y a 6 espèces de phoques au Canada, mais on en chasse 3, principalement les phoques gris et du Groenland. La chasse aux phoques à capuchon est permise. Source: Pêche et Océan Canada. Permis de chasse commerciale délivré en 2024. Québec, 752. Golfe, 60. Maritime, 14. Terre-Neuve et Labrador, 3272. Selon Pêche et Océan Canada, en 2023, pour la chasse commerciale, 866 phoques gris ont été capturés au Québec. Il n'y a pas de quota pour le phoque gris dans le golfe du Saint-Laurent, surtout dans sa partie sud. En savoir plus, source, Comité sénatorial des pêches et océans. Environ 90 % de la chasse aux phoques du Canada a lieu au Nunavut. Entre 2018 et 2022, seulement 1 % du total autorisé des captures a été atteint en ce qui concerne la chasse aux phoques gris et seulement 7 % pour la chasse aux phoques du Groenland. 24,8 millions. Valeur en dollars des exportations canadiennes de peaux de phoque en 2021. Le Canada reste le premier exportateur mondial de produits du phoque. C'était « Comment vendre du phoque en 2024 », un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 21 septembre 2024 dans La Presse.
La rentrée littéraire 2024, polar et littérature de l'imaginaire, polar ancré dans le présent. Des propositions de lecture de Chantal Fontaine, parues le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. L'ex-journaliste Jocelyne Cazin plonge une seconde fois dans l'univers du polar avec Funeste récolte chez Flammarion Québec. C'est sans doute son regard acéré sur l'actualité qui l'a inspiré à mettre en scène des travailleurs temporaires disparus de la ferme où ils étaient embauchés. Lorsque s'ajoute à cela la mort d'un autre fermier de la région, les enquêteurs comprennent qu'il y a anguille sous roche. Entre abus de pouvoir et exploitation humaine, le paysage bucolique de la campagne se teinte de sombres couleurs. Vic Verdier, récidive avec « Face de bœuf » chez À lire, dans lequel il jette un regard critique sur les forces de l'ordre. Alors que la police s'apprête à munir de caméras corporelles l'ensemble de ses agents, les dérives de la technologie se font sentir, dévoilant des comportements douteux de la part des policiers. Un lien avec le retour de la mafia est soupçonné. L'enquêteur a fort à faire pour démêler les fils de ce qui semble une machination. Second roman du duo Victoria Charlton et Alexandre Soublière, La nuit de ta disparition chez L'Homme, revient sur les interrogations entourant le suicide de la mère de Mackenzie, qui découvre chez sa tante d'autres éléments pour avancer dans ses recherches. Mais au lendemain d'une fête, une amie de son cousin est portée disparue. Entre rumeurs et vérités, Mackenzie devra faire preuve de discernement pour dénouer les intrigues qui l'entourent. C'était La rentrée littéraire 2024, polar et littérature de l'imaginaire, polar ancré dans le présent. Des propositions de lecture de Chantal Fontaine, parues le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.